Qu'est-ce que tu fais?
Je voudrais sortir avec des copains.
La sortie au musée est annulée.
Bien entendu, il convient que les gens s'amusent. Et bien entendu, que l'on joue ici même. Ce qui peut amuser tout le monde, nous en serons tous ravis.
Gagnez la sortie de secours sans précipitation. Et laissez-vous glisser sur le toboggan.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Sortie de secours, le podcast où on vous raconte nos sorties. Mais en fait non, on vous parle d'autre chose. Et ce mois-ci, nous étions censés vous emmener goûter à la fraîcheur de la glace combinée à une pétanque approximative.
Oui.
Mais rien ne s'est déroulé comme prévu.
Et non.
Ouais, on a échoué. Et on va donc vous raconter ça en détail avec Mickaël.
Et oui.
Yeah.
Léo.
Oui.
Pauline.
Bonsoir.
Zoé.
Oh, bonsoir.
Jeff.
Hey, hey.
Jeanne.
Hello.
Et moi-même, Pierre. Bonjour à tous.
Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Ah, ça fait un peu alcoolique anonyme, hein, mais... Bref, il y a de cela quelques semaines, nous nous sommes tous levés par un beau samedi matin à 7h. C'était dur.
Très tôt.
Mais ouais, très très tôt. Mais on était plein d'entrain, surtout Jeff.
Et... On était plein dans le train.
On était plein dans le...
Oh
alors, non, bah...
Wow.
Du coup, on était plein dans le train,
en
sauf Jeff.
Non, pas beaucoup.
Parce que on
pas
a...
dans le même train, en tout
ouais,
cas.
C'est ça. Parce qu'on a réalisé assez rapidement qu'il y avait une grève des transports le même jour et malheureusement, on n'a pas réussi à tous se réunir. On était éparpillés un peu partout sur les différents quais de gare.
On n'avait plus d'entrain.
On a... ça va beaucoup trop loin. Bref, ça nous a un peu tous saoulés. Mais il faut savoir qu'ici, à Sortie de secours, on soutient la grève des cheminots. Voilà, c'est dit. Et nous voilà avec un épisode sur les échecs. Pas l'échec, le jeu sur 64 cases, mais l'échec, le truc qu'on rate, le fail, comme disent nos amis anglo-saxons.
Alors, pourquoi tu vas me rater pas de vrai ?
Les échecs, les échecs, les échecs, les échecs, les échecs, les échecs,
les échecs. Ah, loupé.
Les échecs, les échecs.
Attendez, je vais pas rester sur un échec, j'ai une réputation à soutenir, moi.
Les échecs, les échecs.
Raté !
Ah, décidément, tu vois, cette nuit, il n'y a pas que le train qu'on a loupé.
Je vais te rater, comme toi.
Échec et mat.
Bon, les familles, pas, c'est foutu, on l'a loupé.
N'oublie pas ton échec.
Mais avant de commencer vos différentes chroniques, j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu, ce gros ratage, quand on s'est mangé un gros vent de concert tous à 7h du mat, un samedi matin.
C'est un concert.
C'était... Merci, merci Jeanne. Vraiment, je commence à regretter que tu ne sois pas vraiment partie.
C'est là que tu justifies ta présence, vraiment.
Voilà, mais Jeff, pour toi, c'était un peu plus dur, parce que toi, tu n'as jamais réussi à quitter la gare, je crois.
C'était plus dur. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que le samedi matin...
Wow.
Ça a l'air dur là, maintenant, en tout cas. Quoi. Moi, j'ai passé le samedi matin dans le métro à lire Le Monde Diplo, ce qui m'était pas arrivé depuis plusieurs mois.
Gauchiste ! Gauchiste de merde !
Donc personnellement, je pense que j'étais pas trop mal. Honnêtement, j'étais pas à plein dents.
Ouais. Contrairement à toi, Zoé ?
Bah ouais, moi, je l'ai assez mal vécu.
Surtout que ton portable a coupé au milieu de l'événement.
Bah surtout à la fin, quand j'ai su qu'il fallait qu'on rentre tous chez soi bien sagement, là mon portable, bien sûr, n'avait plus de batterie comme il m'arrive souvent. Donc bon, c'était vraiment la loose totale.
Bah surtout qu'on s'est raté, on était censé aller à la même gare,
oui,
toi et moi.
Tu m'as raté, je crois.
Oui, un peu.
Un petit peu volontairement, c'est-à-dire, peut-être
Non, c'est-à-dire que...
Allez, ça règle ses comptes en direct.
C'est-à-dire que moi, à un moment, on m'a appelé en me disant « La sortie est terminée », j'ai fait « Bon, bah ok, je rentre chez moi ». Et coup de bol, malgré la grève, je réussis à choper un train dans les deux minutes dans l'autre sens, donc
ouais.
Je pars.
Ah, j'étais sur l'autre quai en train de te faire « Pierre, ne pars pas, on
voilà, et au moment où je suis dans le train où il part, Mickaël me rappelle et me dit « Finalement, peut-être qu'on va faire la sortie quand même ». Ah bah, c'est dommage, c'est raté. Et vous, Mickaël et Jeanne, vous étiez déjà arrivés, je crois. Vous étiez déjà au point de
tricher. Final.
C'est louche.
Ouais, on avait prévu le coup. On était déjà dans le coin.
Ouais.
Et donc pour nous, ça a été assez sympa. C'est-à-dire
en fait, en réalité, la raison pour laquelle on était déjà dans le coin, c'est qu'en fait, je supporte tellement pas d'attendre les transports que Mickaël, du coup, il anticipe, il dit, oh là là, je voudrais surtout pas qu'elle pète un câble. Donc, du coup, il me fait trouver des stratégies, tu vois, d'évitement.
D'accord.
Ça vient de...
Mais il suivait un petit monde diplôme, hein, demande à Jeff.
Ouais.
Et toi, Pauline ?
Bah oui, bah pareil, moi j'ai fait la bonne élève, je me suis levée à l'heure, je suis allée au point de ralliement, et puis il y avait personne.
Ah mais vous êtes arrivé, toi t'es arrivé au bout en tout cas.
Moi je suis arrivée au bout, ouais. j'ai attendu, d'ailleurs je vais en reparler un petit peu plus tard, et voilà, bah, j'ai reçu pareil un appel de Michael qui me dit bah tu peux rentrer chez toi.
C'est voilà, génial. vraiment
donc
une bonne
je suis rentrée chez moi et je me suis
ce serait pas un peu la faute de Michael quand même?
Bah si, un petit peu.
Et toi Léo, ça s'est passé comment ce gros fail?
Bah moi je me sens un peu bête parce que je me rends compte que je me suis lancé sur un sujet complètement différent et en fait quand je t'ai demandé au téléphone Pierre le thème de cet épisode, tu m'as dit l'échec et puis ça a coupé. Et c'est vrai que j'étais dans les transports publics et on capte toujours mal dans les transports, et vu que de manière générale j'aime pas trop Pierre, j'ai pas cherché à relancer la conversation. Donc je me suis contenté de cet indice, l'échec, et je me suis dit attends, je dois faire une chronique sur l'échec, ce moyen de paiement archaïque. Non, sûrement pas, c'est nul comme sujet. Attends, peut-être il voulait dire les Tchèques, ce peuple créé en 1918 suite à sa libération de l'Empire austro-hongrois. Non, c'est pas mieux comme idée, c'est un peu
pourtant,
marginal.
Et pourtant, c'était ça.
Ah bah, super, mais je me suis Jingle. Préparé sur autre chose, donc... peut-être les Cheikhs, je me suis dit, ces hommes d'influence musulmans. Ça m'étonnerait parce que Pierre, il connaît bien ma passion pour les blagues osées et un peu limites, et là, ça serait la fiesta. Et là, le gros déclic, je me suis dit, ah mais je sais, il voulait sans doute parler des Tchèques, ce geste de salutation au point fermé que font tous les Jeunes aujourd'hui. Oui, connaissant Pierre, les Jeunes.
Bah oui, parce que moi, oui, alors sachez que la moyenne d'âge des chroniqueurs de ce podcast est de 45 ans.
Ah, voilà. À partir du moment où tu utilises le terme Jeunes.
La moyenne, c'est-à-dire que depuis que je suis là...
Avant c'était beaucoup plus
avant,
haut.
Avant c'était 65, mais...
Je rabaisse le niveau, je vous remercie.
Avec mes 12 ans.
Donc, je suis désolé, me voici lancé sur les Tchèques, tant pis si je suis à côté de la plaque, bah, écoute, au pire... Vu que ma chronique est un échec, je suis quand même dans les clous.
Ouais, c'est dans le thème, vas-y, lance-toi. Voilà. Lance-toi, donc, tant pis pour le générique traditionnel, vas-y, enchaîne.
Ah bah là, je suis lancé, donc tu vas pas m'arrêter.
Can't stop me now.
Donc, d'où vient ce geste, je vous entends dire? Comment est né le fait de se dire bonjour point contre point, le fist bump, comme on dit en anglais? Hélas, nous n'avons pas un registre officiel datant de je ne sais quand, dans lequel il est écrit « lundi 23 juin ». Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon poing et de m'en servir pour dire bonjour à tout le monde. C'est un sentiment pourtant que l'on partage tous en moyenne un jour sur deux, donc difficile de décider qui était le premier à y penser et quand. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tchèque fait partie d'une collection de gestes profondément liés à la culture afro-américaine qui font appel aux mains et surtout aux poings. Le poing est un symbole puissant pour cette culture qui remonte jusqu'à l'esclavage car il fait référence aux poings mis au fer des esclaves. Le poing levé devient donc particulièrement significatif, montrant la liberté de la culture noire et de son peuple. Souvenez-vous par exemple de cette fameuse photo des deux athlètes afro-américains sur le podium en 1968 qui lèvent leurs poings portant des gants noirs en soutien au mouvement Black Power.
Alors rigole moins là. Hein.
Ouais. Ouais. Bah voilà, ouais, non mais c'est l'instant.
T'as direct cassé l'ambiance.
On s'en souvient.
Non mais c'est l'instant histoire.
Bah, on s'en souvient, nous, toi t'étais pas né.
Oui, je me souviens l'avoir vu quelque part. On m'en est parlé.
Et donc, comme toute chose dans le monde, le tchèque évolue progressivement et devient un moyen d'identité culturelle et générationnelle, mais surtout un moyen d'expression puissant. Et c'est en 2008 que le tchèque atteint son sommet entre Barack Obama. Candidat démocrate pour la présidentielle américaine, il monte sur scène pour remercier son public devant lequel il fait un petit tchèque intime avec sa femme Michelle. L'internet s'emballe, une moitié des gens trouve ça chouette et assez branché pour un homme politique, et l'autre moitié, dont Fox News par exemple, se demande ce qu'ils viennent de voir. Obama, ça rime avec Osama. Il n'est pas blanc et il fait des trucs chelous avec ses mains. C'est un terroriste! Mais en fait, non, tout le monde s'est calmé. Au final, ils se sont rendus compte que juste, c'était un geste d'amour, de respect, d'amitié. Voilà. Et politiquement, mais aussi socialement, ce geste est très puissant. C'est un signe de respect, d'amour et de solidarité. Par exemple, le rappeur 20 Bello, ou alors plutôt 18 Bello en français si on respecte le taux de change entre l'Amérique et la France, tente de réduire la violence des gangs en encourageant les gens de se checker plutôt que de se tuer. Dans le documentaire français de 2015, Check It Out, il dit « On ne tue pas quand on serre la main, du moins pas dans notre culture. » Alors c'est beau comme message, mais c'est bien faux parce que serrer la main de quelqu'un peut bel et bien tuer. Et oui, de nombreuses études médicales montrent que la tradition de serrer la main est un désastre en termes de santé car cela propage un nombre incalculable de microbes et de bactéries. Une étude au Canada en 2016 montre par exemple que 80% des maladies sont propagées par la main, que cette hausse de transmission pendant l'hiver coûte environ $1 milliard au pays, et que 3500 Canadiens meurent chaque année suite à des complications liées à cette propagation, on va dire, manuelle.
Mais avec le tchèque, on évite ça du coup, ou pas ?
Et du coup, on conseille aux gens de faire un check. Il y a carrément des spots publicitaires dans lesquels ils disent « bump, don't shake ». Et c'est vraiment un spot hyper drôle où tu vois plein de gens en train de se faire des checks au lieu de se serrer la main. Même un enterrement, t'as tout le monde qui sont là genre « mes condoléances, bump, bump, bump » au lieu de shake. Parce que effectivement, à la fin du spot, ils disent « c'est une catastrophe sanitaire, ne serrez pas les mains aux gens ».
Mais du coup, c'est quoi ? C'est comme le truc où tu laisses tomber ta tartine par terre et si ça n'a pas touché plus d'une seconde le sol, c'est bon, tu peux la manger.
Alors déjà, on va arrêter tout de suite, c'est 5 secondes.
C'est 5 secondes. Attends, une seconde.
Moi j'étais sur 10, moi, carrément.
Il y a un vrai débat là.
Oui, non, mais toi, c'est ça, le côté dégueulasse.
Si la confiture est sur le sol, c'est 2 secondes, et si elle est de l'autre côté...
Ça commence à devenir vachement compliqué de manger ta tartine, quoi. Enfin, s'il faut calculer à chaque fois...
On conseille donc aux gens de faire un check plutôt que de serrer la main. Cela réduirait de 90% la transmission de bactéries et de virus comparé à la poignée de main. Et on fait comment, du coup, pour éliminer les derniers 10%? Ben, en ne se touchant pas du tout, voyons. Et pourtant, cela semble inimaginable. Pourquoi?
Ne pas se toucher soi-même, tu veux dire?
Ça aussi, ça peut aider. Surtout si tu serres la main à quelqu'un derrière, après. Mais
alors, faut le faire que avec le poing, quoi. Ça.
Voilà, ouais.
En tout cas, pas après avoir pris le métro.
Se toucher avec le poing, ça va être un peu compliqué.
Cet épisode s'annonce vraiment n'importe quoi.
Je suis plaisir d'offrir.
Joie de recevoir.
Hashtag je suis plaisir d'offrir.
Mais
hashtag je suis joie de recevoir.
Ok, on n'est pas arrivé au bout, quoi.
Et du coup, pourquoi sommes-nous anthropologiquement conditionnés à toucher la personne en face de nous quand on la rencontre pour la première fois ou même quand on la voit comme si c'est un pote? On doit toujours la toucher. On a cette obligation de faire la bise, de serrer la main, de faire quelque chose pour la toucher.
Mais moi, Léo, ça me gêne un peu que tu fasses ça à chaque fois qu'on...
Mais je suis en train de te toucher maintenant là aussi, mais ça, je sais que ça c'est autre chose. On va pas en parler maintenant. Question bête avec une réponse très simple, par contre. Notre envie de toucher et dans certaines cultures même de sentir sa main après avoir serré la main d'un autre nous permettrait de...
C'est pas la culture française, Yves.
Nous on fait de la bise, donc autant te dire, on met le pif carrément dans le visage et le cou de la personne, c'est pire. Carrément, on se frotte les joues et les barbes contre l'autre,
d'ailleurs, ça me gêne quand tu me fais la bise, Léo.
Non, moi je te lèche carrément.
Ça avec beaucoup trop d'intensité.
Ça fait velcro.
Et je crois qu'en plus, les barbes, c'est vraiment un des trucs les plus dégueulasses au monde, quoi.
Ah oui, donc n'en parlons pas.
Il n'y a aucune barbe autour de cette table, on est tous.
Non, on est tous glabres.
Ouais.
Mais effectivement, il y a certaines cultures où on sent sa main après avoir serré la main d'un autre parce que ça nous permettrait de, entre guillemets, mieux connaître la personne, en tout cas au niveau animal et au niveau chimique. Et donc, la prochaine fois que vous croisez quelqu'un et qu'il ou elle souhaite mieux vous connaître en vous tendant la main, décidez si cette personne mérite de risquer votre vie et au pire, vous lui donnez votre poing. À vous de voir après si c'est au visage ou ailleurs.
Oh. Allez !
Pourquoi enseigner l'attitude est dans le poing ? C'est stupide, mais c'est la vie.
Je suis très impressionné parce que t'as quand même fait une chronique de, je sais pas, on va dire 6-7 minutes en parlant de points sans aborder le sujet de la fistinière et ça m'étonne de toi, Léo. Ouais.
Je me suis retenu, mais de ouf.
Ouais.
Ça a été très difficile pour moi.
Titre.
Ouais. Bon, bref.
Ouais, c'est fait exprès aussi.
T'étais hors sujet, c'était un échec, mais c'était bien quand même.
Parce que c'était un échec.
Bah oui. Mais on va revenir au sujet.
On va tous faire ça. Que des chroniques échecs.
Que des chroniques échecs. Ok, cool. Bon allez, on va revenir au sujet. En plus, toi Jeff, il me semble que tu voulais parler un peu plus précisément de ton expérience au cours de cette sortie. Toi qui n'as jamais pu quitter ton quai de gare finalement. Donc tu comptes nous entretenir, et c'est un peu bizarre, d'une tentative de théorisation des transports.
Tout à fait. Ce qui est drôle avec les transports, c'est qu'à chaque fois qu'on a décidé d'aller à un endroit, il faut toujours, alors que vous apprêtiez à partir, que vous vous rendiez compte qu'il vous manque quelque chose. À ce moment-là, c'est parti pour un retour à la case départ. Non, en fait, c'est nul ça, je vais pas partir là-dessus. Pardon, c'est pas comme ça que je voulais commencer. On la refait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est dingue le nombre de gens qui regardent leur téléphone dans le métro. D'ailleurs, des chercheurs de l'université de Brown ont démontré que... Non, en fait, c'est nul cette accroche. Excusez-moi. En matière de transport, on a coutume de dire « Qui veut bien voyager ménage sa monture ». Mais à l'aube du 21e siècle, que faire de cette fameuse maxime? Non, merde, je crois que celle-là est encore pire que les autres.
Non mais Jeff, je sens que tu vas nous la faire à l'envers et que tu as encore fait une chronique avec des accroches ratées pour faire une métaphore de notre sortie qui a échoué et ça va pas marcher, quoi.
Tu trouves, non?
Oui, je trouve.
Mais, non mais, je fais quoi du coup?
Bah, je sais pas, t'enchaînes sur la suite, tu doutais bien que ça serait un peu casse-gueule, non?
Pas vraiment.
Bah, je sais pas, tu comptais continuer comment en fait ? Tu t'allais pas faire une chronique uniquement constituée d'amorces de chroniques qui avortent au bout de quelques phrases et ad vitam aeternam ?
Bah, c'est super conceptuel, non ? Enfin, je sais pas, on peut pas essayer de prendre des risques, faire de la radio expérimentale, de l'inattendu
Bah, ouais, on peut, puis c'est super chiant en fait que les gens. Je sais pas, les gens ils attendent un peu de contenu.
Et là, t'es radio en même temps.
Et la littérarité de mes chroniques, t'en fais quoi ?
Est-ce que tu peux les plaire, oui, s'il te plaît ?
Il y a que moi qui peux inventer des mots ici. Hein.
Bah, j'en fais que la littéra truc, bah, c'est toujours un peu chiant, tu vois. Je sais pas, t'as pas un plan B, une suite de chroniques, quelque chose ?
Mais j'ai pas de plan B, mec. Faut savoir travailler sans filet.
En fait, t'as encore un train un peu de nous la faire à l'envers. Et moi, je t'avoue, à chaque fois, en plus, ça me fait chier parce que ça m'oblige un peu à jouer le rôle du tyran. Mais on va arrêter le massacre, en fait. Bah, tu feras une autre chronique en évitant le jargon théorique creux, là. Et puis, bah, Mickaël, tu nous caleras ça bien proprement. Tu sais bien faire, t'as l'habitude, on enregistre par-dessus. Et puis, ton espèce de mise en abîme de l'échec chelou, là, on la bazarre.
Alors, attends, c'est pas si simple que ça, quand même. T'es gentil, quoi.
Bon, Mickaël, tu vas pas nous casser les burnes, tu vas pas t'y mettre. C'est des détails d'équilibrage de son, c'est toi qui gères, donc tu vas pas pinailler pour un raccord. C'est pas compliqué. Non, mais ça va, quoi. Merde. À un moment, Jeff, on fait ça quasiment à chaque fois. De toute façon, personne comprend tes chroniques. On les remplace, personne capte que dalle. Donc, Mickaël, tu nous gères ça. On n'en parle plus. Et puis voilà.
Et donc, après cette inversion dans les priorités, on peut vraiment dire que si le système ne contenait pas cette dose nécessaire d'aléatoire dans le choix des correspondances, c'est toute l'organisation des relations interpersonnelles dans les transports qui serait mise en péril. Une sorte d'aller-retour sociologique avec effet rétroactif d'un point de vue goffmanien.
Qu'est-ce que vous faites exactement ?
Sociaux.
Pardon.
Ah ouais. Eh bien, merci beaucoup, Jeff, pour cette chronique étonnamment instructive, pour ainsi dire. Mais heureusement, ça fait quand même un peu des échecs de suite. Donc, Jeanne, toi qui es beaucoup plus poétique, tu as prévu une chronique
beaucoup plus jazz
pour nous parler de la façon dont la sérendipité contrecarre des échecs potentiels, c'est ça ?
Sérendipité. 5 syllabes pour un terme. Sérendipité, donc.
En fait, comme du coup, j'ai pas vraiment cherché sur ce sujet, bah du coup, j'ai rien écrit. Et donc, du coup, bah on peut dire que c'est un peu une métaphore de cette soirée d'échec, okay. Vois, de cette sortie d'échec. Et je fais un peu un échec.
Ouais, t'es un échec, ouais. Ouais, t'es un échec.
Laisse tomber, tu te fous de ma gueule.
Bon, bref. Bon, voilà, je sais pas pour vous, mais on est quand même à trois chroniques un peu qui se plantent. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause. On va un peu changer la teneur de ce podcast et puis on va mettre la pause musicale maintenant, Mickaël.
Mais carrément.
Faisons ça parce que moi, j'ai besoin d'une pause, en fait.
C'est vrai.
Une bière.
Alors, j'ai trouvé une musique qui m'a fait un peu rire. C'est un truc des années 60. Alors, j'ai pas l'année exacte, j'ai pas réussi à la trouver. Donc, ça peut-être 67, un truc comme ça.
C'est toi qui a dit au pif.
Ouais, j'ai envie de dire.
J'aime cette année.
Voilà. C'est pas 69, c'est 67, a priori.
Et un petit peu moins érotique, du coup.
Tout à fait. Mais quand même un peu. Mais un peu moins.
Préliminaire.
Et donc le groupe, c'est Roger Maurice et compagnie. Donc on est dans les années 60, hein, je vous rappelle.
C'est classe.
Un groupe anglais, donc.
Tout à fait. Et le titre s'appelle C'est la tasse. Et il y a une petite dédicace spéciale à Zoé. Ah. Avec donc non seulement vous verrez, mais surtout la fin.
Meilleur bande-annonce.
Oh les collègues, vous qui aimez les histoires drôles qui font rigoler, j'en ai une terrible à vous raconter. Hein. Alors voilà, il y a un type, il entre dans un café.
Oui.
Il demande un sandwich à la baleine.
Oui.
Et le garçon, il lui répond, impossible. J'ai plus de pec.
Ouais, eh ben.
C'est la tasse, autrement dit le vide complet, le four ou bien le navet, en un mot c'est la tasse.
Ouais, son histoire c'est vraiment la tasse, hein.
Oh les amis, venez ici. Son histoire, tout le monde y la connaît. Mais moi, je vais vous confier un secret. Savez-vous que j'apprends la trompette? Et ma concierge dit à tout le monde que j'ai le style de Herb Alpert. Écoutez ça comme c'est beau.
Ouais, eh ben.
C'est la tasse, autrement dit le vide complet, le four ou bien le navet, en un mot c'est la tasse.
Sa trompette c'est la sous-torse.
Range ta trompette, allez, fais pas la tête. Tu sais que bientôt je vais me marier et je voudrais vous parler ma fiancée. Voyez, moi je trouve qu'elle a un petit peu de Sophia avec un je ne sais quoi d'Ursula et puis un faux air de Bardot. D'ailleurs, regardez sa photo.
Ouais, eh ben.
C'est la tasse, autrement dit le vide complet, le four. Ou bien le navet, en un mot c'est la tasse.
J'essaie de réhabiliter cette expression, quoi. C'est la tasse.
Fiancée, c'est la super tasse. Allons les copains, ça n'est rien. Mais c'est très souvent comme ça dans la vie. Et on n'est pas forcément du même avis. Mais pour nous mettre tous d'accord. Alors, dites-moi donc ce que vous pensez, hein, de l'émission de variété d'hier au soir à la télé.
Alors là, c'était pas la tasse,
non. Ni la sous-tasse,
non.
Ni la super-tasse.
C'était le bol.
Voilà, donc du coup la dédicace c'était donc surtout donc les jeux de mots et puis l'émission de variété pour Zoé qui est fan de télé, hein,
ouais,
on
merci,
l'aura compris.
C'est l'âge ça.
Et alors, pour ceux qui ne connaissaient pas l'expression c'est la tasse, donc c'est un peu vieilli, mais c'est un peu bah, le bide, l'échec, quoi. Voilà, donc le rapport avec la thématique de cette émission. Voilà.
Quand t'es obligé de te justifier, c'est
que ça va pas. Ouais, non, mais, on est d'accord. Mais c'est,
écoute,
c'est
écoute, hein. Mickaël, t'étais déjà plus dans le thème que les trois personnes qui t'ont précédé, donc on va pas t'en vouloir. Hein.
On progresse. Voilà.
Et on va passer à Pauline. Pauline.
Oui.
Ta chronique que tu as sobrement intitulée « De l'échec urbain ou la controverse du béton dans nos villes de 1973 à nos jours », je ne te cache pas que je suis un peu sceptique, mais tu parles de ville et de béton, donc je me dis que tu vas potentiellement cracher sur le Havre, et comme le Havre, c'est super chum, c'est tout bon pour moi, vas-y.
C'est le béton qui nous rend martoule, les terres vagues. La cité monstrueuse. Cet univers déshumanisé qui nous entoure. Et sans âme. Nous avons envie de voir des arbres. J'ai envie de l'entendre chanter les oiseaux.
Non, je ne cracherai pas sur le Havre parce que mon papa est né.
Eh ben, on passe à la chronique suivante.
Et c'est la famille. Voilà. Donc, effectivement, je vais vous parler de plein de choses très intéressantes, mais avant tout ça.
Bon, de sujet de ta thèse.
Ouais, de, voilà. Exactement.
Un petit résumé.
C'est vrai qu'on aurait dit un peu un sujet de Jeff, un sujet des chroniques
mais
de Jeff.
Mais je me suis inspirée, j'avoue.
Et l'histoire du bâton de je sais plus combien à nos jours, du Moyen-Âge.
À travers les âges.
On va mettre un prélude de Bach derrière et puis ça passera bien.
C'est ça.
Non mais en fait, je voulais quand même, avant tout ça, rendre un petit hommage à Jeanne parce que, bon, elle n'a pas fait de chronique aujourd'hui pour des raisons qui lui incombent.
Oh.
Donc, ou qui lui succombe.
Ou qui lui décombe.
Donc ouais, Jeanne est une grosse feignasse. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît?
Bon, alors moi, je ne tirerai pas de conclusion, mais en tout cas, oui. Je voulais lui rendre un petit hommage quand même.
Oh.
Et pour nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore, Jeanne, c'est chaque mois l'assurance d'une chronique positive, pleine de poésie et de beauté. Alors, par exemple, des chroniques sur le gazouillis des oiseaux. Mmh. Ou encore sur l'harmonie des voix d'enfants dans un parc ou une cour de récré.
On dirait un peu un éloge funèbre.
Bah oui.
Car à la fin
je suis toujours là. je suis vivante.
Mais la personne est là, ouais. Ça
reste tranquille dans ton cercueil.
Bref, t'as pas oublié la chevive pour la fin du podcast. Hein.
Ah, t'inquiète.
Ou encore des chroniques sur les soins agréables de nos quotidiens.
On connaît celui-là.
Oui, étonnant que t'aies pas pris le camion poubelle à reculons.
Ah, ou le chat avec le feu.
Ou qui le bruit des personnes qui se retournent la paupière.
Ah oui, c'est le Jeff.
Voilà le chat avec le feu. Méga combo. Alors, en arrivant au point de rendez-vous pour faire cette fameuse sortie qui a échoué, je me suis retrouvée donc, dans une petite bourgade de banlieue dont nous allons modifier le nom. Alors, je sais pas, on pourrait l'appeler...
Michaelville.
Michaelville, par exemple.
Pourquoi pas.
Et donc, je suis là un samedi matin à Michaelville à 8h30.
Et... Il n'y a aucun sens. Où tous les sons sont hyper contrôlés dans la ville.
Voilà. Et donc, en sortant de la gare, sur le parvis de la gare, j'ai levé...
Skype est interdit.
Et en sortant de la gare, sur le parvis, donc, j'ai levé les yeux et j'ai tenté de voir le monde qui m'entourait, un peu à travers les yeux de Jeanne, quoi.
Oh.
Donc, Michaelville, son port de plaisance. Michaelville, ses espaces verdoyants. Michaelville et ses joyeux badauds qui flânent dans les ruelles pavées chargées d'histoire. Bon, malheureusement, la positive attitude, c'est pas donné à tout le monde. Et personnellement, je trouve ça vraiment trop dur. Donc, Jeanne, je suis désolée, j'ai échoué. J'ai cru que le temps d'une heure, comme ça, je pouvais assumer la partie bisounours de ce podcast. Mais en fait, non, c'est vraiment beaucoup trop de responsabilité.
Ça t'est dévolu.
Et donc, bon, pour tout vous avouer, au départ... Comme l'a dit Pierre, comme j'ai attendu un peu tout le monde sur le parvis de la gare de Michaelville, mon idée c'était de vous parler de l'échec urbain, de la politique de la ville, avec notamment le lancement du plan banlieue en 77 sous Giscard. Ça faisait en plus une bonne raison de reparler de Raymond Barre. Et puis j'ai entendu la voix de Jeanne comme ça dans ma tête, qui me disait un truc du genre
c'est un peu barbant là cette histoire. Est-ce que t'aurais pas un sujet un peu plus fun? Je sais pas, moi, par exemple, parler des revêtements des sièges des transports publics, tu vois? Un truc un peu... pourquoi est-ce qu'ils sont si ratés, quoi?
Tu fais vachement bien la voix de Jeanne. Hein.
Bah, je me suis vachement entraînée. Ouais. Et alors là, je me suis dit, bah, banco.
Sans ouvrir la bouche, en plus.
Banco, c'est quoi. Ouais, t'as vu. Et donc, effectivement, il y a de quoi dire sur le sujet. Et la première chose qu'on peut dire, d'ailleurs, c'est qu'il s'agit d'un échec de dimension internationale, parce que moi personnellement j'ai jamais mis les pieds dans une ville qui avait des sièges de métro ou de bus vraiment stylés. En général, ça ressemble à un amalgame de vieilles couleurs bien criardes, et puis comme rien n'est trop laid pour les transports publics, les designers utilisent des motifs qui n'ont visiblement pas connu le passage à l'an 2000, le tout imprimé sur de la moquette bien sûr.
Et troller transport.
Ah, j'allais le faire, troller. Comment tu l'as écrit, quoi? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, putain, en fait, ça se trouve, les designs des sièges des transports, c'est vraiment un truc de troll, quoi.
Pas les trolls, les créatures de la forêt. On est là.
Non. Alors pourquoi tant de laideur? C'est vrai que vu le niveau, on se dit qu'il y a forcément.
Ce sont des trolls. Pardon.
Il y a forcément une explication. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que je me suis dit. Et en fait, la réponse, c'est que oui, il y a une explication. En revanche, je vous laisserai libre de juger de la pertinence de la réponse. Parce que déjà, le premier point, c'est pas vraiment celui auquel on s'attendrait. Figurez-vous que la première chose que les designers recherchent, c'est la banalité. Bon, soit.
Putain, alors ça, c'est quand même un but. Vraiment hyper louable, quoi.
Mange ton quotidien.
moi ce que je veux vraiment, c'est être banal. Vraiment,
c'est pas pour que les gens genre abîment pas les sièges, genre ils s'en foutent, ils le regardent, ils font ouais ça m'intéresse pas, je vais pas m'en,
alors
pas
peut-être que je vais en dire un petit peu plus dans quelques
excusez-moi d'être trop intelligent pour ce podcast. Allez,
le mec.
Alors comme le justifie l'un des messieurs en charge du design des sièges dans les transports en commun, voilà, ça c'est son titre, je cite: dans le transport collectif on n'a pas le droit d'être clivant, parce qu'il faut satisfaire 95% de la population. Et oui, c'est pourquoi les motifs choisis font en général appel au thème de la nature, plantes, fleurs, environnement, afin de limiter la prise de risque.
Alors attends, bon, du coup,
intéressant.
Donc ça veut dire que du coup, parce qu'on peut pas satisfaire tout le monde, on satisfait personne. seul.
Non, oui. C'est pas ça. Ça veut dire qu'ils essaient. Enfin, selon eux,
des petits symboles.
Ils essaient de satisfaire moyennement
95% de la population.
Et on emmerde les 5 derniers pourcents.
Mais si tu mets des petits symboles qui correspondent à la vie de tout le monde, c'est-à-dire une petite voiture, une petite fleur,
une bite,
tout le monde n'a pas de voiture.
Un triangle.
Ni de bite.
Exactement.
Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment dire que ça se soit passe-partout. Bon, on est d'accord.
On parle de toujours de la même chose ou l'aventurier.
Mais non, mais il ne plaise pas à 100% des gens, donc voilà, c'est réussi.
C'est vraiment plutôt très ringard, même si toujours, d'après le monsieur en charge du design, je cite, « Personne ne pense que les motifs de végétaux pourraient être ringards d'ici 10 ans.
» Non, ils le sont tout de suite. C'est immédiat, quoi.
Il fallait faire un sondage il y a 80 ans.
Moi, je suis assez admiratif de leur capacité à avoir toujours 20 ans de retard. C'est vrai que c'est...
C'est louable, ça, pour
alors, c'est vrai que là, ils font des trucs avec des symboles des années 90, ouais, quoi. Ouais, je veux dire, aujourd'hui, alors on est en 2019.
Hey, mais si on faisait un truc sur le disco, c'est vachement à la mode,
c'est,
non?
C'est de l'arrière-garde, en fait, je pense. Alors, ce qui est assez quand même marrant, moi, j'avoue que j'avais pas remarqué avant de faire cette chronique, c'est que dans le métro, les motifs sont plus simples et souvent linéaires, donc c'est souvent des lignes. Et en fait, la raison, c'est qu'en surface, les usagers sont dans le voyage, alors que sous terre... ils sont plus dans la performance. Donc dans le métro, les designers souhaitent plutôt véhiculer des valeurs comme efficacité, vitesse, usage.
La performance tandis... ou la survie.
Oui, parce que...
ouais, peut-être les
deux. Je suis en train de me dire, moi, dans le métro, c'est vraiment pas la sensation que j'ai, quoi. La performance.
Encore une station de plus,
quoi.
Ouais.
Ça l'a dit,
ouais, la 13, c'est un peu une perf.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est ça, ça dépend de comment on voit la chose.
C'est pour ça que c'est hyper linéaire dans la ligne 13.
Mais en tout cas, dans le bus ou dans le tramway, on se laisserait apparemment plus souvent aller à la rêverie. Voilà, parce que forcément, on regarde un petit peu à l'extérieur.
Ouais, bah, ouais. Ça, on voit le monde.
Alors, ok, bon, pour les motifs, pourquoi pas. Bon, maintenant qu'on a justifié les motifs, qu'en est-il du choix des couleurs? Parce que ça, c'est quand même un autre débat. Alors, autre information...
De l'orange voilà. Ah oui,
autre information étonnante, si les sièges sont bariolés, c'est mûrement réfléchi, puisqu'en effet, toutes les personnes concernées s'accordent sur un point. Il est beaucoup plus compliqué de dégrader un siège bariolé qu'un siège de couleur unie. Voilà, c'est des gens qui ont des propos quand même très très pertinents.
Et parce que ça se voit, en tout cas, ça se voit moins.
Ben, c'est ça, je crois que c'est le...
C'est pas plus compliqué, c'est aussi facile de le faire, mais ça se verra beaucoup moins, quoi.
Et donc, les sièges de transport public sont, je l'ai dit, peut-être les derniers endroits en France où on trouve de la moquette. C'est parce qu'en fait, il s'agit du tissu le plus résistant, donc il est facile à nettoyer, et il empêche aussi la propagation du feu et de la fumée. Voilà, c'est toujours bon à savoir.
Par contre, au niveau acarien, on est comment, quoi?
Ah ben, au niveau acarien... Alors, il y a une vidéo, justement, sur YouTube, je crois.
Je l'ai vu sur YouTube.
Et où, effectivement, il y a un gars qui tape avec un marteau sur un siège, et il y a vraiment de la poussière. Enfin, bon, c'est assez, assez ragoûtant. Donc, si les marchands de moquettes...
Ça développe tes anticorps, c'est comme ça
que
voir.
Oui, c'est comme ça.
Pas les mêmes vidéos, j'ai l'impression. Ça.
Je veux même pas savoir les vidéos que tu regardes, Jeff, quoi.
Cet algorithme, vraiment.
Mais est-ce vraiment YouTube?
J'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que niveau visuel, on se dirige vers des
you
choses
moquette.
Un peu plus simples.
Du béton.
Alors, youpi! Ça pourrait, mais non. Non, en fait, le goût de chacun d'entre vous peut aussi rentrer en ligne de compte puisque la RATP, par exemple, procède à des enquêtes d'opinion. Donc, vous pouvez aller sur le site de la RATP pour voter sur quel sera le prochain design de votre siège de bus. Voilà, si jamais vous n'avez rien d'autre à faire dans le bus, par exemple.
Mais alors, attends, est-ce qu'on peut voter
parmi quatre propositions
de la RATP? Ouais, ok,
est-ce
d'accord.
Un QCM ou...
Alors, voilà, plutôt bon, des conifères.
Ça reste assez... Ça reste assez limité quand même.
Des lignes.
Vert clair, vert un peu plus clair.
Des lignes avec un triangle.
Bon, ça reste basique. En tout cas, si on applique la même recette pour notre podcast, en gros, pour ne pas être clivant et pour plaire à 95% des gens, on mise cette saison sur des chroniques autour de la nature, des chroniques aux motifs chamarrés, un peu râpeuses, mais anti-inflammables.
C'est les tendances de cette année, c'est comme ça.
Ah, pas mal.
C'est tentant.
Eh bien, Pauline, ça tombe bien que tu parles de ça, car moi, je voulais vous parler des sentiments des arbres et de l'homéopathie.
Bon, je rentre.
Non, pas du tout. Non, moi, je vais vous parler pas d'échecs de design urbain, de bus, machin. Je vais vous parler d'échecs bien humains, et plus précisément de comment les échecs des uns peuvent faire le bonheur d'un seul.
Le malheur des uns.
Quel sport pratiquez-vous?
Des sports d'hiver.
C'est vous qui m'avez offert une belle paire de patins.
C'est la classe, non? Tu sais que je suis champion du monde.
Ouais, moi ce qui va peut-être un peu vous étonner, c'est que je vais vous parler de sport. Ouais.
Ah. Ouais, ah ouais,
comme vous qui me connaissez, vous savez que c'est un peu bizarre.
Je croyais qu'on parlait que de ce qu'on connaissait.
Ouais, bah juste, bah écoute.
Allez.
J'aime les défis. J'aime les défis.
Que la marche nordique, ça compte pas. Hein, une fois comme ça.
C'était pas moi le plus à la traîne. Hein.
Certes. Tu veux vraiment en parler, Zoé?
J'avoue que t'es mal placé.
C'est toi.
Oui, vas-y.
La paille, la poutre. Enfin, voilà,
donc le sport.
Le bâton. Bon, comme notre sortie annulée était une sortie curling, je me suis dit que j'allais rester dans cette thématique et parler plus précisément de sports d'hiver et même de Jeux olympiques d'hiver. Alors, j'aurais pu choisir de parler de Rasta Rocket et de bobsleigh, parce que après tout, quand même, c'est un magnifique échec, cette histoire. Mais je vais plutôt vous parler de ice skating et de Stephen Bradbury. En fait, il y a quand même un point commun entre Stephen Bradbury et Rasta Rocket, c'est que dans les deux cas, ce sont des sportifs qui viennent d'un pays qu'on ne s'attend pas trop à voir au sport d'hiver. La Jamaïque pour les uns et l'Australie pour l'autre. Autant dire que Stephen Bradbury, c'est pas exactement le sportif le plus reconnu du pays, voire que tout le monde s'en fout un peu de ses performances en Australie et que c'est un sport assez minoritaire. Bon, on va quand même resituer. Qu'est-ce que c'est le ice skating, ou plutôt le short track, comme on le nomme en France, parce que ça n'a aucune logique, autant garder en anglais, ou encore le patinage de vitesse sur piste courte, comme disent nos amis québécois.
Au moins, ça a un
attends,
sens.
Attends, redis ça.
Le patinage de vitesse sur piste courte.
D'accord.
Bah, c'est logique.
Le patinage de vitesse sur piste courte.
Ah putain, je devrais être.
Oh là là.
J'aurais dû t'embaucher pour les accents québécois. En fait, ce sont entre 2 et 8 patineurs qui s'affrontent dans un anneau de 111 mètres de long en tournant en rond le plus vite possible, histoire d'être le premier arrivé sur une distance qui fait ou bien 500 mètres, ou bien 1000 mètres, ou bien 1500 mètres. Bon, en fait, le principe est assez simple, hein, tu tournes en rond, il faut être le premier. Bref, Steven, bah parce qu'on va l'appeler Steven, on va se débarrasser de Bradbury assez vite, c'est un champion de ice skating. Dès ses 17 ans, en 1991, au championnat du monde de short track en 5000 mètres relais, il obtient sa première médaille d'or. Je sais pas, mais pour vous, mais moi, à 17 ans, j'avais pas de médaille d'or.
Comment ça?
Moi, je sais pas encore.
C'est bien le seul, hein.
Oui, c'est-à-dire que quelques années plus tard, j'en ai toujours pas. Hein, je ne suis toujours que médaille de bronze en judo.
Même en chocolat?
En chocolat?
T'as pas eu une médaille d'or en chocolat?
T'en as eu beaucoup.
On en reparlera à Pâques, Mickaël. Bon, sa médaille d'or, en fait, c'est la seule qu'il ait eue. Ensuite, il a eu du bronze toute sa vie. Et surtout, grande frustration pour lui, il a toujours voulu avoir une médaille en individuel et il n'en a jamais eu que en relais. Mais Steven, c'est malgré tout l'égérie du ice skating en Australie. Faut dire qu'ils ne sont pas ultra nombreux à se disputer le statut. Et ils donnent tout pour la cause. Il faut savoir qu'en ice skating, on va vite. En fait, on va quand même à plus de 50 km/h. Et que du coup, quand on se gaufre, en général, on ne fait pas semblant. Et souvent, on se vautre avec un camarade sur la glace. Et c'est pas pour rien que les patineurs, ils portent des protections en Kevlar, notamment autour du cou et des mains, parce que chacun d'entre eux, quand même, il a au bout de deux extrémités, à savoir les jambes, des lames qui font une quarantaine de centimètres bien affûtées. Autant dire que quand tu te manges ça dans la gueule, ça fait pas du bien. Et Steven, bah, il va faire leur connaissance d'un peu trop près. En 1994, lors d'un événement en marge de la Coupe du Monde de Short Track à Montréal, il se prend une tôle avec un autre patineur et la lame sectionne quand même les quatre quadriceps de la cuisse.
Oh, mais toi, c'est toujours glauque.
Ouais,
c'est la tasse.
Mais j'aime bien.
C'est la tasse.
Sauf qu'en plein effort, en fait, le problème, c'est que ton petit Kokoro, il bat quand même à 200 pulsations par minute. Donc, il se vide, vite fait, de 4 litres de sang sur la piste. Putain. Et je sais pas si vous avez des
c'est relou.
Déjà, t'avais été lancé comme nous mettre de bruitage pour illustrer
ton
propos.
Est-ce que vous avez des restes de vos cours de biologie? Est-ce que vous vous souvenez du nombre de litres de sang dans un corps humain?
7.
4 litres de sang, ça fait quoi? Ça fait 8 pentes, à peu près.
Ouais, en fait, un mâle adulte, en moyenne, il a 6
combien de frites?
Un peu plus. Donc il s'est quand même vidé aux deux tiers, le bonhomme.
On était bien. Hein.
Ouais, il s'est vidé aux deux tiers.
Autant dire
que Steven, il n'est pas passé loin de la mort, mais c'est un battant. Il est ice skater, vedette de l'Australie, donc il se remet en piste et patine et jeunesse. C'est reparti jusqu'en 2000 où il tombe à l'entraînement et se brise deux vertèbres de la nuque. Et les médecins, ils y vont de leur pronostic et disent « Steven, it's over. You will never ice skate again. » Enfin, ils le font avec un accent australien.
Oui, parce que j'allais dire, là, ils sont...
Est-ce que tu sais faire un accent australien, Léo?
It's over, mate. Oh, Steve.
Voilà.
G'day, Steve.
Oui, car pour rappel, Léo est anglophone. Voilà.
Stop ice skating, Steve. Hunt kangaroos instead.
Putain, les clichés.
Enfin, bref, j'imagine que c'était à peu près ça et que, comme dans une bonne série télé, en fait, Steven, il a répondu « No, I will. »
Est-ce qu'il a répondu non? « It ain't over till it's over. » Merci, Jeanne.
Bref, Steven reprend l'entraînement avec un seul objectif, participer une dernière fois au JO. Donc nous sommes en 2002, aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. Steven a 30 ans, autant dire qu'il commence à être vieux pour un sportif. Il sait que ce sont ses derniers JO, c'est sa dernière chance, mais bon, il a de l'expérience. Peut-être après tout qu'il va réussir à tirer son épingle du jeu.
Enfin, il est vieux aussi pour Zoé.
Oui, oui.
Oh là là, oui.
Alors vraiment, en plus, tu veux pas le pécho. Il a les cheveux décolorés, un bouc dégueu, passe pas.
T'as beau en moins.
Tu connais pas mon style, ok.
Bon. Malgré tout, Steven parvient à
c'est
se hisser.
Prête à tout, Zoé. Zoé est sur les dents.
Moi, j'aime bien les Australiens avec 3 litres de sport dans le corps.
Moi, c'est vraiment que les cheveux décolorés et les boucs, hein, c'est pas le reste.
Bref, Steven parvient à se hisser jusqu'en quart de finale et bah, c'est l'élimination. Après une très belle course, il est arrivé troisième et ce sera pas suffisant. Il reprend ses patins et il s'apprête à... Non, on annonce que Marc Gagnon, le champion mondial en titre, est éliminé pour avoir bloqué un autre patineur pendant la course. Et voilà, Steven propulsé en demi-finale. Bon, malgré l'euphorie que ressent Steven avec 4 courses dans la journée, en plus de son grand âge, 30 ans, ultra vieux, il se fait pas trop d'illusions. Donc la course de demi-finale commence. Sans surprise, Steven est bon dernier, loin derrière les favoris. Et tout à coup, le Sud-Coréen Kim Dong-joon, multiple médaillé olympique.
Le dictateur.
On est vraiment pas loin, quoi.
Multiple médaillé olympique, percute le Chinois Li Jiajun, autre multimédaillé olympique. Mais il a quand même 10 médailles d'or. Steven, il est à zéro. Et les deux entraînent dans leur chute le Canadien Mathieu Turcotte, lui aussi plein de médailles, bref. Et c'est un miracle. Une chute de groupe a éliminé 3 concurrents et Steven Bradbury prend la première place et il est en finale. Wow. Et quand même.
On est en finale.
Ouais, ça peut vous faire aussi. Et 1, et 2, et 3, 0. Il en a fait tomber 3 quand même.
Ouais.
Enfin, il ne les a pas fait tomber, ils sont tombés tous. Bref. Ouais, alors, parce que sinon, il serait un peu éliminé aussi.
On ne sait pas, hein, on ne sait jamais.
C'est vrai.
Une petite pinette, c'est...
Quand même, gros coup de cul sur les quarts de finale où le mec avant lui
est éliminé. Coup de cul, paf, hop, tombé.
Hop. Gros coup de chance sur la demi-finale. Sur la demi-finale où... il réussit aussi à se qualifier. On l'a un peu compris, Steven Bradbury a le cul borné de nouilles, déjà 2 fois qu'il aurait dû être éliminé. Et non seulement il est toujours dans la compétition, mais surtout il est pour la première fois de sa vie en finale olympique. Bon, il sait bien qu'il n'aura pas tant de chance que ça une nouvelle fois. Alors, il va voir le favori de la compétition, l'Américain Apollo Ohno, à qui il a fourni des patins. Car figurez-vous que Steven, il a sa petite entreprise à côté, il fabrique des patins. Et il va voir Apollo et il lui dit « Hey mec, quand t'auras gagné ?» Oublie pas de parler de mes patins.
Putain, on se croirait dans Forrest Gump.
Il est bon joueur, ce Steven. Bref, c'est l'heure de la finale. Tout le monde est prêt. Le départ est lancé. Steven, évidemment, il est rapidement distancé. Dès le 4e tour, il est à 50 mètres derrière tout le monde. Un océan de glace le sépare des 2 premiers, Apollo Ohno et Li Jiajun. Ils patinent de concert. Nous sommes maintenant au 9e et dernier tour. C'est le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Li tente de déborder Apollo par l'extérieur et le patin dérape sur la glace, il chute, un homme à terre. Dans son mouvement, il emmène avec lui Ohno, qu'il précédait, et Sou, qu'il suivait. 3 hommes à terre, Turcotte, dernier du pack, n'échappe pas à son destin. 4e homme à terre, de son côté, Steven Bradbury, 50 mètres derrière, largement distancé, slalom entre les 4 corps qui jonchent la piste et franchit la ligne d'arrivée, tranquillou bilou, avec l'air un peu surpris du mec qui comprend pas très très bien ce qui lui arrive. Et il est champion du monde, quand
ouais
même.
Bravo, bravo.
Bravo,
donc
Steve.
Deux fois.
Alors non.
Deux fois les mecs sont tombés.
Quart de finale. Il y a un mec qui se fait éliminer avant lui parce qu'il a fait une faute. Il se retrouve en demi-finale. Demi-finale, tout le monde se vautre devant lui. Il est en finale. Finale, tout le monde se vautre devant lui. Il gagne la médaille d'or.
Mais en fait, c'est ça la solution.
C'est
pour
la
ce sport.
Stratégie de l'échec.
En fait,
c'est de rester derrière.
Non mais une métaphore de la vie. Voilà. Tu restes loin derrière. Donc tu laisses tout le monde échouer. Et après...
voilà. Donc pour faire de Steven le champion du monde, The Last One Standing, du nom de sa propre autobiographie, il aura fallu pas moins de 8 échecs consécutifs de ses collègues patineurs de vitesse. Échecs sur lesquels Steven et son entraîneuse en fait avaient parié. Ce dernier, sachant qu'il avait strictement aucune chance de l'emporter, avait décidé de rester en retrait en espérant qu'une chute lui permettrait éventuellement de décrocher une 3e place avec un peu de chance, peut-être que je serai sur le podium, on sait jamais. Bon, 4 chutes plus tard, il est carrément médaille d'or et Steven est entré dans la postérité comme la première médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver, non seulement de l'Australie, mais de tout l'hémisphère sud de la planète. Et il est resté célèbre pour une autre raison. Maintenant, quand on gagne au sport d'hiver parce que tous les autres se sont vautrés, on appelle cela faire une Bradbury.
Tu as réussi à faire d'un désastre une victoire.
Voilà la belle histoire de Bradbury.
J'ai jeté mes feuilles, j'ai plus la présentation de Zoé.
Voilà, ouais, Zoé, c'est meilleur à toi. Allez. C'est clair. Hello. Moi, on la garde, vas-y, c'est parti.
Non, c'est bon, j'ai beau. Non, en fait, on va quand même terminer cet épisode avec Zoé, parce que Zoé, tu as choisi un sujet parfait pour conclure cette émission. Tu vas nous parler des jingles de Game Over.
Game Over, la partie est terminée.
Fini les vannes, hein, fini la bonne humeur, tout ça, c'est Game Over. Et je déconne pas.
Et oui, nul n'est ignorant du fait qu'un échec peut se montrer retentissant, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Je vois pas de quoi tu parles.
Comme un succès d'ailleurs, qui peut être retentissant également. Mais sait-on vraiment comment retentit un échec? Comment il se manifeste d'un point de vue sonore, investit nos conduits auditifs, s'imprime dans nos sens et vient marquer au fer rouge le mot « loser » dans notre mémoire?
Quel mot?
Loser. Loser. Alors, quid du son de l'échec? Bon, bien sûr, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas vraiment de jingle naturel de l'échec. À part peut-être quand l'alarme du monoprix déclenche alors que tu passes le portique avec 17 sacs de courses, que tu vas devoir dépiauter un à un avec ticket de caisse à l'appui pour prouver que t'as bonne foi pendant que la voiture à l'extérieur se fait enlever par la fourrière avec ton chien à l'intérieur. Là, peut-être que c'est un jingle de loose. Voilà. Mais bon, ça dépend toujours des situations. D'ailleurs, moi, mon jingle de loose que j'entends quand je pense à notre sortie ratée, par exemple, ça serait plutôt quelque chose dans ce style-là. Allô? Ouais, je suis sur le quai, là. Bah, comment ça, ils sont pas dedans? Hein, il est parti? Non, mais il est 10h, là, je suis encore là. Allô? Ah, oh, putain, j'ai plus de batterie. Voilà, ça sera ça, mon jingle de la loose quand je pense à notre sortie ratée.
Oh, il y a eu un check.
Il y a eu un check. Ah, bah, tu...
Ça voulait dire taisez-vous.
Eh bah, non, bah, je lui sors la main, moi, je bump.
Génial.
Mais au fil de l'histoire, et notamment l'histoire du bide, il y a des sons qui sont imposés comme de véritables marqueurs d'échec. Donc alors, pour l'exercice, là, je vais devoir faire des blagues nulles. Donc, c'est vraiment pour montrer l'exemple. Hein. C'est pas mon type d'humour. Voilà.
Ah, ouais.
Donc, vraiment, je décline toute responsabilité vis-à-vis de ce qui va se passer. Alors, je me lance. Oui, d'accord, j'ai trompé mon sax avec un trombone, mais à ce que je sache, souffler, c'est pas trompette.
Ok.
Voilà, alors, je n'ai tiré aucune satisfaction de cette blague. D'accord. Parce que...
Tu l'as trouvé où cette
blague? Il y en a trois.
Tu l'as inventé ou?
Oui.
Pardon.
Bah, plus simple pour l'invention de la blague quand même.
Non mais je t'en prie, continue.
Voilà. Donc dans la famille des sons de la loose totale, on a aussi le scratch, hein, le fameux bruit du diamant qui dérape sur le vinyle et qui donne l'impression que le protagoniste vient de se ridiculiser. Exemple. Non mais... Ouais, non, c'est... Bah, je te disais que c'était pas mal, mais je préférais quand même Renan Luce.
Ouais. Renan Luce, ça sera un petit peu ton...
La télé frite, et Renan Luce. Voilà.
Ça y est, c'est fini pour toi.
On ne juge pas, mais un peu quand même.
Et puis, par-dessus tout, on a le king des jingle naze. Bon, alors, pour celui-là, il faudrait que je trouve une blague encore moins drôle que le reste. Ok, je crois que j'ai trouvé. Hey, les gars, vous savez, comme on a fait une sortie ratée, on pourrait appeler l'épisode échec, mais genre au pluriel. Comme ça, tous les gens qui nous écoutent, ils vont se dire « Ah ouais, ils ont fait une sortie échec, genre avec des pions et tout. » Et en fait, non.
Comment ça balance?
Comme ça, dans l'intro, on pourra dire « Eh, on vous a bien nu. » Bref, je propose qu'on s'arrête sur le motif musical là qu'on vient d'entendre, le « point, 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 point » que je viendrais l'user à la bouche, là. C'était pas un son enregistré, hein. C'est...
Bravo.
Voilà, merci.
Même moi, tu vois, je pensais de l'avoir lancé.
En fait, avant que ça vienne une ponctuation de blague ou de situation qui tombe à l'eau, c'était un gimmick extrait d'un épisode de Tom et Jerry. Voilà, ça vous la coupe. Hein.
Ouais.
Bah ouais, carrément.
Ouais. Et en réalité, on le retrouve dans plein de cartoons différents, de Tex Avery et autres. Et parce que dans ce genre de dessin animé, la musique, elle a une fonction commentative. C'est-à-dire qu'elle répète sans cesse, sous forme de son, l'action que suggère l'image à l'écran. Donc quand le bulldog poursuit le petit chat dans toute la maison et qu'il se prend un mur de briques, on va avoir un gros bruit orchestral hyper, hyper puissant, hyper volumineux.
Jeff réagit, quoi. Exactement.
Oh yeah.
Ah, le bulldog.
Je vois totalement. Et si le personnage monte un escalier, le son va lui aussi monter et se faire de plus en plus aigu. Et au contraire, s'il chute du deuxième étage, on aura certainement une gamme de notes qui descend de l'aigu vers le grave. Genre...
C'est pas un, ce qu'on appelle un madrigalisme.
Exactement.
Okay. J'ai cassé l'ambiance.
C'est la fonction ornementale.
Regarde-moi les deux spécialistes de la musique qui se la pètent là.
Tout à fait. Et donc notre qui est souvent utilisé pour figurer l'insuccès ou la déchéance d'un personnage dans les cartoons, si on l'analyse musicalement, on remarque plusieurs choses. Déjà son tempo, sa vitesse très lente, qui évoque la fin de quelque chose, un dénouement, quelque chose qui s'essouffle. On a le son de la trompette aussi, qui lui ajoute un côté grinçant et comique. Et si on regarde de plus près la mélodie, on constate qu'elle n'utilise pas la gamme habituelle, telle qu'on la connaît, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais une gamme qu'on appelle chromatique, donc qui n'utilise pas que les notes qu'on connaît, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
Des notes qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est beau.
Inconnu.
Des notes qui n'ont pas de nom.
Genre do dièse ou ré bémol. Wow.
Qui est en fait la même.
Nerd.
Non, sérieux.
Donc la gamme chromatique n'utilise pas que ces notes, mais aussi les notes intermédiaires, c'est-à-dire qui séparent do et ré, par exemple, do dièse, comme le disait Mickaël. Donc cette gamme chromatique, si on la joue rapidement, on obtient une sorte de sirène qu'on appelle glissando. Quand il monte, on a l'impression que quelque chose s'allume, ça fait un... Par exemple, j'ai l'impression d'être dans...
Tu peux nous le refaire, hein, c'est bon. What?
Alors, ça peut se finir comme ça.
On dirait, tu sais, le son quand t'allumes Skype, un peu, non?
Ah ouais. Voilà. Et bah justement, ça s'allume.
Toup, toup, toup. Ah non, alors, non ça c'est... Ça fait un peu des toup, toup.
N'hésitez pas à sortir n'importe quel jingle qui n'a rien à voir, hein. C'est vraiment... et quand il descend, on a l'impression qu'au contraire, quelque chose s'éteint ou meurt. Là, ça fait vraiment C'est pas sorcier, les bruitages de C'est pas sorcier, je crois. Pour faire une anecdote télévisuelle.
Moi, je vois autre chose, mais c'est pas grave.
Et le point, qui est, en fait, ce n'est autre que cette gamme chromatique qui est jouée extrêmement lentement. Et donc, cette gamme s'est installée dans l'usage comme le marqueur d'échec par excellence. Donc, non seulement dans nos blagues, quand on l'utilise, même des fois, on le mime à la bouche, n'est-ce pas, le point. Alors, pour le coup,
franchement, Léo, bien joué.
Il y avait un petit accent australien, j'ai trouvé. Ah, mais... Ouais.
Et surtout, la fin, elle est un peu vibrato. Elle fait
ça rajoute au côté ridicule.
Voilà, c'est ça.
La petite vibration finale, effectivement. Ouais.
Donc, ce petit motif, on retrouve pas seulement justement pour illustrer une blague foireuse, mais aussi dans le contexte des jeux vidéo.
Ah.
Et oui, tous les jingles de Game
là,
Over.
Je veux juste, il y a Léo qui vient de vibrer quoi. À un moment, t'as dit
je me réveille. Quoi, jeu vidéo? Ah, bonjour.
On avait dû le mimer, ça aurait fait oui. D'ailleurs, t'es réveillé.
Je ferai pas de commentaire.
Et oui, tous les jingles de Game Over ou partie terminée pour nos amis québécois, encore eux. Merci. Enfin, eux, ils auraient plutôt dit fuck encore une hostie partie terminée.
Bravo.
Donc, tous ces jingles de Game Over reprennent à leur manière le point dont je vous parlais. Et quoi de mieux que les écouter pour s'en rendre compte. D'ailleurs, on pourra voir si vous le reconnaissez, tous ces jingles. On va commencer simple.
Mario.
C'est ça.
Pac-Man.
Oh là là, mais t'es beaucoup trop fort.
Toi, t'es un vrai geek. T'es un vrai geek.
Allez, troisième.
Facile.
C'est Sonic.
Bande de geeks.
Oh là là.
Mais il est beaucoup plus long que celui que j'ai l'habitude d'entendre.
Ouais. Suivant.
Oui, parce que je perdais souvent.
C'était Rayman 3.
C'est celui qui est en 3D?
Ah bah j'ai jamais eu de game over dans ce jeu.
Non, c'est parce que le jeu est nul.
Allez.
Parce que le jeu est nul, on n'y a pas joué.
Ouais, ça doit être ça alors. Prochain?
Ah, c'est pas Pokémon ou un truc comme ça?
Non, t'as pas de game over dans Pokémon.
Zelda?
Ouais,
ouais.
Legend of Zelda.
Encore un petit réveil.
Et allez, un petit dernier.
Allez.
Modus.
Perdu. Ok, alors du coup, moi si je peux me permettre, j'aimerais terminer sur une dernière chanson. de Kings of Convenience qui s'appelle Failure.
Alors en australien du coup.
Voilà. Okay. Voilà. Et donc Kings of Convenience, pour ceux qui connaissent pas, c'est un duo folk de norvégien. Donc composé notamment
on connaît
par
pas, ouais.
Mais si mais Erlend Oy.
Erlend Oy. Faut le dire avec l'accent.
C'est pas un meuble IKEA, ça.
C'est un accent suisse.
Suisse mixé chinois quand même.
Ouais, suisse allemand.
Alors oui, Zoé, notre caution raciste. Voilà, il faut qu'on soit très clair avec ça.
Je fais tous les accents, mais après c'est à vous de vous débrouiller.
C'est pas eux qui font un truc qui fait du genre tout.
Exactement.
Ah, j'adore.
Toi, tu connais.
Mais bien cultivé.
Elle est quand même à deux doigts de chanter Motus, hein. Donc.
On dirait le début de.
Ah ouais, la série sur M6, je vois bien.
Donc Erlend Oy et Eirik Glambekbo, voilà.
Ah,
hein, je sais pas.
Glambekbo.
Et je suis désolé pour eux, vraiment, j'ai aucune idée de la prononciation de leur nom. Et donc voilà, donc du coup, on va écouter
Failure
de
Kings of Inconvenience.
No,
of
Convenience. Convenience.
Oh, sorry for the inconvenience. It's the Kings of Convenience.
Et puis à la prochaine.
Hein
ouais.
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 Bye bye.
On essaiera de pas se planter pour pas refaire un podcast sur l'échec, ça va être très chiant sinon.
On va essayer.
C'est la tasse.
Bye. Using the guardian as a shield to cover my thighs against the rain. I do not mind about my hair. Your jacket may be waterproof, but knowing the moment you get home, you're gonna get those trousers changed. Way to learn, retracing your steps till you know. Have no fear, your wounds will heal. Just the wind upon a tree.